RCF.
Concernant le travail de Michel Castra sur la sociologie des équipes en soins palliatifs, c'est un travail, à ma connaissance, je ne l'ai pas lu, mais j'ai un confrère qui l'a lu et qui m'en a parlé. Il me semble que c'est un travail qui est remarquable par son exigence, parce qu'il vient soulever des questions. On est dans des domaines où il traîne quand même l'idée que, puisque c'est des soins palliatifs, c'est bien. La réalité est plus nuancée que cela, parce que on peut entendre, est-ce qu'il n'y aurait pas de l'acharnement palliatif, par exemple? Je trouve que c'est une bonne question, parce que parfois le patient ne veut pas du tout entendre parler de nous. D'autres fois, on aimerait bien qu'il vienne, mais il n'est absolument pas prêt et il ne faut absolument pas du tout forcer les choses. Et puis à d'autres fois, il n'a pas forcément sa place en fait dans le service et on est obligé de le mettre à la porte parce qu'il va bien. Ça arrive aussi. Et donc tout ça, ça n'est qu'une petite partie au-dessus de l'iceberg, parce que Michel Castra a vraiment travaillé sur beaucoup d'éléments de cela. Ça peut vraiment nous déranger. Et c'est bon en fait que ça nous dérange, parce que ça nous fait travailler encore plus loin. Dans l'évolution des grandes tendances, ce qu'on voit quand même apparaître, c'est les tendances qui ont été impulsées par les lois successives, qui tendent quand même à être mises en œuvre et de façon extrêmement concrète. Notamment actuellement, il y a un acharnement à chercher quelles sont les directives anticipées du patient et quelle est la personne de confiance. Alors, autant la personne de confiance, d'accord, c'est plutôt une bonne chose, parce que c'est vraiment une personne qui va être le grand témoin vivant du patient, qui va nous dire, ben voilà, dans ce que j'ai compris de ce que le patient disait de sa maladie, ça, je crois avoir compris qu'il ne voulait pas que ça se fasse, ou j'ai compris qu'il voulait plutôt qu'on fasse ça, parce qu'il m'a dit ça, ça et ça. Donc là, on a quand même quelqu'un avec qui on va pouvoir échanger, parfois qui va simplement nous dire, il y a une fois, il était devant la télé, il a vu tel patient dans un fauteuil roulant, il ne veut pas être comme ça. Bon, c'est pas très riche, mais c'est toujours ça. Après, qu'est-ce qu'on peut en faire ? Pas toujours grand chose, ça c'est déjà un élément qui va plutôt pencher sur, on va pas le mettre dans cette situation qu'il veut pas, où il veut pas se retrouver, mais en même temps on ne peut pas exclure non plus la parole d'autres gens peut-être parfois plus proches qui vont dire, ben il avait quand même changé dans son parcours, moi qui suis sa petite fille, il m'a quand même dit qu'il voyait les choses autrement depuis qu'il est dans son lit. Et que finalement, il avait peur du handicap, mais là, il n'en parle plus du tout de la même manière. Donc, beaucoup de prudence. Donc ça, c'est bien. Les directives anticipées, c'est pas mal, mais les gens sont paumés, dans la mesure où c'est extrêmement difficile de se dire, d'imaginer un petit peu ce qui va se passer, qu'est-ce qu'il faut mettre là-dedans. Alors on arrive à des trucs farfelus du style, on nous envoie des gens qui étaient en maison de retraite, ils sont tombés par exemple, ou je sais pas quoi, et puis on nous dit, voilà, ils vont pas bien, il faut faire quelque chose. Alors on regarde les directives anticipées, parce que maintenant elles sont à l'hôpital dans le dossier du patient, si elles n'ont pas été modifiées entre-temps. Auquel cas on prend les dernières, et puis on lit, le patient ne veut pas de prise de sang, ne veut pas être opéré, ne veut pas de perfusion, ne veut pas, il vient faire quoi à l'hôpital? Alors à ce moment-là, je dis, vous avez lu les directives anticipées, pourquoi vous nous l'avez envoyé? Oui, mais il y a telle chose, on fait quoi? Parce que là, on va contre l'avis du patient. Le service de soins palliatifs essaye, alors d'abord, est le premier garant que la parole du patient, elle va être respectée du mieux possible. La deuxième chose, c'est qu'on essaye de promouvoir partout dans l'hôpital et ailleurs qu'il est primordial que cette parole soit respectée. Après, je vous dirai comment on se débrouille avec cette parole, parce que c'est pas évident. Voilà, les gens sont quand même paumés, ce qui fait qu'il peut y avoir des contradictions dans ce qu'ils disent. Et nous, dans tout ça, on prend et on essaie de voir ce qui se passe et de tenir compte de ce qui se passe. Et de plus en plus, les médecins tiennent compte de cela, au risque même parfois d'en tenir beaucoup trop compte, si bien qu'il y a des situations où, pour nous, même médecins de soins palliatifs qui sommes proches des gens qui s'approchent de la mort, on dit non, 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 là, ça c'est une maladie qui se traite, le patient va retrouver son état antérieur on a de fortes chances de retrouver son état antérieur ad integrum, c'est-à-dire dans son intégrité première, il va retourner chez lui debout bien. Donc vous traitez, et ces directives anticipées là actuellement ne s'appliquent pas. Voilà, donc c'est important parce qu'aux urgences, ça va vite en besogne. Hein. Quand vous avez beaucoup de patients à faire circuler, il y a des directives anticipées, oh, il ne va pas bien, et hop, 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 c'est parti, on applique et on réfléchit plus. Il y a quand même une augmentation, je trouve, des demandes d'euthanasie qui, après 2016, se sont transformées en demandes de sédation. Je préfère que les choses soient distinctes parce que la demande d'euthanasie, enfin, comme je l'ai dit, nous ne les traitons pas, si ce n'est par une écoute bienveillante et d'essayer de comprendre pourquoi ça mène à cette attitude-là. Mais je n'ai pas reçu de formation de bourreau, je ne sais pas quelles sont les drogues, parce que ce ne sont pas des médicaments qu'on utilise. J'ai des idées, en fait, je me dis, j'ai déjà entendu parler vaguement de choses qui se font en Suisse ou autre, j'imagine le type de traitement qu'on peut utiliser. C'est vraiment clairement deux choses différentes. Si ça doit exister en France, il faudra impérativement qu'il n'y ait aucun lien entre l'exercice médical et l'exercice de ces pratiques. Je dis bien aucun lien et nous serons fermes là-dessus, ce sera non négociable. Parce que le problème, c'est que c'est un problème de confiance pour les gens. Si vous avez les mêmes médecins ou si dans le même hôpital on fait un accompagnement de la vie même déclinante et que d'un autre côté en fait on provoque la mort, les gens vont quitter l'hôpital en fait, enfin, ou vont trouver d'autres moyens, ou vont faire des demandes farfelues, voilà, on va pas s'en sortir. Donc c'est un travail, alors là pour le coup, hyper chrétien, d'avoir cette attitude de discernement pour dire attention, ça c'est du tohu-bohu, c'est du n'importe quoi, il faut séparer les choses. La crainte qu'on a pour la suite, pour l'instant en fait le gouvernement est bien occupé en fait avec la gestion de la procréation médicalement assistée à d'autres choses que l'accompagnement de l'infertilité dans un couple fait d'un homme et d'une femme. Ça pose d'autres questions qui sont des choix politiques, pas des choix médicaux, mais il va falloir que la médecine se positionne aussi là-dedans, parce que ça a des coûts, etc. Mais c'est un autre débat. En tout cas, ça occupe beaucoup là pour le moment. Et en revanche, ce qui va réémerger, c'est qu'on aura toujours un groupe parlementaire qui ira essayer de continuer à vouloir changer la loi. On sait que ça, on l'aura à notre avis jusqu'à la fin de nos jours, parce que les gens vont chercher à regagner du terrain coûte que coûte en fait sur ces démarches-là. Et donc face à cela, forcément, il y a un gouvernement qui va essayer de répondre, plutôt de dire non stop, c'est bon, enfin, comme c'est fait actuellement d'ailleurs pour le moment, on dit attendez, il y a une loi 2016, regardons déjà ce qui se passe, parce que il y a déjà des belles choses dans cette loi et on a déjà une sédation qui est claire, qui est mise en œuvre, qui essaie d'être mise en œuvre. C'était pas forcément très clair pour tout le monde, mais là il y a quand même des choses qui se développent et qui prennent de la clarté. Ce qui se développe aussi, et ça je crains plus cela, c'est qu'on a vu apparaître dès 2000, c'était quand, fin 2017, à peine un an après la loi, comment s'est appliquée la loi de 2016, est-ce que vous faites des sédations? Le problème n'est pas là. Le problème, c'est pas le nombre de sédations qui sont faites, parce que là, on est dans le même problème politique que combien la police arrête de voleurs. Le problème, c'est surtout qu'il y ait moins de voleurs. C'est pas que la police arrête beaucoup de voleurs. Il faut surtout que finalement les gens soient soulagés, bien soulagés, et s'ils n'ont pas besoin de sédation, tant mieux. Mais non, là actuellement, on a une police politique qui est en train de se mettre en place probablement, enfin ça peut aller vers ça, qui est en train de vouloir savoir s'il y a des changements dans ces pratiques. Alors, ça peut être bien, c'est tout le problème des statistiques et qui essaient d'évaluer, mais qu'est-ce qu'on en fait après? Ce que je sais, c'est que les Hébreux, quand on avait commencé à vouloir les compter, etc., ils disaient, attendez, on n'aime pas trop quand vous nous comptez, hein, parce que qu'est-ce que vous allez faire avec ça, en fait, parce qu'il y a des choix politiques derrière. Bon, c'est ce que je peux dire des grandes tendances que je vois, puis peut-être aussi nos craintes à nous, en fait, en tant que médecins. Il y a peut-être d'autres tendances. Alors, est-ce qu'on y associe les familles? Alors, de plus en plus, pour ma part, le service de 12 lits dans lequel je travaille, nous sommes deux médecins. Quand je suis tout seul, je rame beaucoup parce que j'ai 24 patients, en gros, parce que j'ai les 12 patients et j'ai les 12 familles. Et puis des fois, il y a plusieurs membres dans les familles et puis qui sont eux-mêmes parfois beaucoup plus en difficulté que le patient qui est apaisé. Et on essaie de les associer en fait à tout ce qui se passe. C'est très très riche. Oui, c'est vraiment. On n'est plus dans la dimension le patient tout seul. Avant, on était l'organe. Après, on était avec le patient. Là, c'est le patient et sa constellation familiale, si je puis dire. Donc le patient qui est un être relationnel, et là c'est super riche et c'est passionnant qu'en fait. Enfin, voilà, un petit peu pour donner quelques éléments de sociologie de mon tout petit point de vue. Madame, vous nous demandiez, et c'est quelque chose qu'on entend souvent, je voudrais bien décider un petit peu dans l'histoire par rapport aux grandes orientations et même à la fin de ma vie, ou sur différents points qui sont graves, et où j'aimerais bien qu'on fasse exactement ce que je dis. Je vais vous retourner une question, c'est pourquoi avez-vous besoin de décider pour vous? Souvent, alors, il y a une question d'un certain manque de confiance, en fait, dans la médecine, c'est pas forcément pour votre cas, en fait, mais c'est ce qu'on remarque. Et on essaie de travailler actuellement sur ce manque de confiance parce que c'est pas évident. On essaie aussi de beaucoup communiquer sur qu'est-ce qui se passe, d'essayer d'envisager avec les patients qu'est-ce qu'ils peuvent imaginer de pire et qu'est-ce qui leur fait peur, qu'est-ce qu'ils aimeraient surtout pas, et de leur faire écrire justement dans les directives anticipées. Et puis nous, de faire appliquer ces directives anticipées qu'a rédigé le patient. Au-delà, d'exiger des médecins qui fassent exactement ce qui est écrit, c'est un petit peu plus complexe parce qu'on entre dans une relation qui serait pas saine, puisque nous ne deviendrions que des exécutants d'une sorte de testament de fin de vie, c'est-à-dire en mettant de côté notre discernement sur la pertinence de l'application de ce qui se passe. C'est pas ce que le législateur a proposé, ça les a effleurés, mais on est passé de pas loin pour que ça soit comme ça. Mais heureusement, ça se passe pas comme ça parce que, a priori, quand même, celui qui est plus compétent entre le patient et le médecin, le patient a sa compétence en fait de ce qu'il vit sur sa souffrance, et ça c'est indéniable. On peut pas dire en fait qu'il souffre pas. Et cette souffrance, elle est extrêmement complexe, ça peut être psychologique, psychiatrique, enfin des tas de choses, mais par exemple, on ne traite pas une souffrance psychiatrique de la même façon qu'une souffrance liée à une douleur, et si les deux sont intriqués, il est franchement préférable que ce soit les médecins qui sachent un petit peu ce qu'il faut faire dans l'histoire, et pas les patients. Si un patient disait, ben voilà, vous me ferez ça et ça, ça se passe très mal en fait, parce que il y a des gens chez qui il est arrivé qu'on utilise de la morphine, parce qu'on estimait en fait que c'était peut-être le traitement le plus adapté. Catastrophe, hein. Les gens vivent des hallucinations, et endormir quelqu'un sous morphine quand c'est pas indiqué, c'est très moche, quoi. Enfin, le vécu peut être extrêmement pénible. Alors, on n'ajoute pas de la pénibilité à ce qui est déjà pénible. Donc c'est pour ça que c'est préférable en fait que ce soit quand même les médecins qui essayent d'être au plus proche de ce que veut le patient, on essaie de comprendre le sens et essaient d'appliquer au mieux ce qui se passe par rapport à la souffrance, à ce qu'ils ont compris de la souffrance du patient. C'est pour ça qu'être en dialogue le plus longtemps possible, c'est indispensable en fait. Les questions sur le spirituel, et puis ça rejoint peut-être aussi en fait le vécu de mon attitude chrétienne face aux malades. Alors, je vais peut-être pas être très original, mais le patient, en fait, quand il vient me voir non pas en tant que chrétien, il n'attend pas d'homélie de ma part, il n'attend pas de parole divine de ma part, en revanche, il attend des soins. Donc, ma première attitude, et qui est éminemment spirituelle pour moi, c'est de faire mon travail. Et donc, tout ce travail d'écoute, qui est vraiment de s'asseoir et de se taire, de poser une petite question, de ne pas aller plus loin que le patient ne peut aller, et puis aussi, en tant que médecin, de lui donner les informations dont il a besoin, ben ça rejoint quand même une des choses qui est une des paroles du Christ qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Ben combien de fois les gens m'ont dit « Ah, c'est la première fois qu'on me dit où est-ce que j'en suis dans la maladie, je viens d'apprendre que c'est très grave, que je vais mourir, mais… » Enfin, on me le dit parce que moi, je ne savais pas combien de temps j'allais vivre et puis j'ai des choses à faire là pour le moment. Et donc, merci. Alors, c'est à la fois douloureux, mais quelle libération. Quand les gens m'ont dit ça, mais enfin, j'étais surpris en fait. Je disais, enfin, les premières fois qu'on annonce comme ça un petit peu ce qui se passe, on disait, ouais, qu'est-ce que ça va donner chez le patient? Mais en fait, non, il y a une vraie attente sur une authenticité de ce qui se passe. Ce qui ne veut pas dire, et tout dire n'importe comment. C'est bien, je suis. Le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire que nos paroles, dans ces paroles-là, elles doivent être des paroles de vie. Elles doivent être authentiques. Elles doivent ouvrir un chemin. Les trois ensemble, en fait, hein. C'est pas... Donc, j'essaie plutôt d'appliquer, en fait, des paroles qui m'ont marqué, qui me travaillent, que je médite, bah, qu'elles deviennent concrètes, réalité pour les patients. Parfois, il arrive que je vois bien qu'il y a des besoins spirituels qui s'expriment. Donc dans ce cas-là, ça fait partie aussi de notre travail. C'est une américaine qui a bien étudié ça sur les besoins des patients, les 14 besoins de Virginie Anderson. Et il y a les besoins spirituels en particulier. Et étant dans un hôpital qui est public, ce qui veut dire, non pas laïque, mais ça veut dire pluriel, donc qui est fait de la pluralité des croyants et des non-croyants, eh bien, ça fait partie de notre travail aussi de fournir au patient ce dont il a besoin sur un plan spirituel. Et donc, avec des musulmans, ben, on parle à partir de ce qu'ils vivent de leur foi, et moi je suis toujours émerveillé en fait de ce qu'ils peuvent raconter de leur foi, de leur confiance en fait. Dans le Seigneur et dans l'outil que nous sommes en tant que médecins, soignants, et que, bien sûr, ils veulent mettre tout en œuvre, en fait, pour que tout ce qui peut être fait pour conserver la vie soit fait. Mais en même temps, ils disent bien, à un moment donné, si c'est le moment, si Dieu dit que c'est le moment, et ben, bah, c'est le moment. Et c'est comme ça. Moi, je trouve que c'est quand même une certaine confiance en fait où la personne s'en remet en fait à son Dieu, et je trouve ça très beau. Après, c'est pas toujours facile en fait, hein, mais bon, voilà, parce qu'il y a aussi la partie avant. Est-ce que vous avez tout mis en œuvre, et qui est pas toujours facile à traiter. Pour ce qui est donc de ces besoins, donc on essaie de trouver donc enfin quand c'est opportun, l'intervenant qui est opportun pour le patient. Alors c'est assez marrant parce qu'on voit des choses qui partent du modèle chrétien, qu'on pourrait peut-être même dire catholique, où c'est très très hiérarchisé, enfin tout du moins, comment dirais-je, enfin, dans les conceptions d'autrefois. Donc là, il faut un chef ou un représentant, et puis etc. etc. Et puis on dit, ben voilà, on appelle le prêtre éventuellement, bon, etc. Et donc ce modèle-là a été calqué pour les autres confessions qui fonctionnent pas forcément de la même façon. Et quand vous arrivez en fait dans les confessions musulmanes, il faut savoir que dans notre secteur, on a 19 formes de confessions musulmanes. Et qu'il n'y a pas forcément de lien entre les confessions et pas des pratiques tout à fait pareilles en fait. Et puis ceci se colore aussi des différents points de vue des gens, où il y a des gens qui disent, mais enfin qui sont peut-être plus sur des pratiques ancrées, non pas sur la foi, mais sur des éléments de rites, dont ils ne connaissent pas toujours le sens. Alors des fois ça peut poser des problèmes, jusqu'à ce qu'on trouve la personne référente qui dit, mais non, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, parce que les gens ne connaissent pas forcément leur propre religion. Donc voilà ce qu'on rencontre en fait dans notre pratique. Après, il arrive quand même parfois que j'interpelle les gens quand je vois qu'ils sont de la même confession que moi. Ça peut m'arriver de me permettre de les interpeller sur un point ou l'autre, en fait, de façon plutôt discrète et prudente, et voir un petit peu comment ça résonne. C'est une façon aussi d'ouvrir un chemin. Après, je ne peux guère aller plus loin parce que ce n'est pas mon travail, et je pense qu'il faut vraiment distinguer les fonctions. Le mélange des genres est assez délétère. En fait, il y a des fois des gens qui sont à la fois médecins, représentants de leur culte et psychologues, dans une conception intégrative en fait de la personne. Alors, c'est vrai pour la personne, elle vit toutes ces dimensions-là, mais ces dimensions sont liées et il y a des interconnexions. En revanche, qu'il ait en face quelqu'un qui est tout, a priori, ça peut être catastrophique. Ou alors, il faut être extrêmement prudent en fait sur les différents plans. Voilà, c'est pas tellement conseillé. Voilà ce que je peux dire. Alors, par rapport à ce que j'ai vécu face aux malades, voilà ce que je peux dire. Il y a vraiment des belles rencontres, qui sont vraiment des rencontres interpersonnelles, où c'est plutôt moi qui suis en émerveillement devant le patient, avec toute cette richesse, et c'est certainement un des moteurs de ma vocation. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup apprendre, et j'en apprends tous les jours sur ce qu'est être homme. Alors on pourrait rendre ça merveilleux en disant « Ah, c'est merveilleux les soins palliatifs ». Non, le patient vit quelque chose d'absolument pénible. C'est en revanche la façon dont il le vit par ses moyens à lui, où je me dis « Mais c'est pas possible, il y a encore ces moyens-là à ce stade-là ». C'est-à-dire qu'on peut résister en fait des jours en n'ayant plus grand-chose de physiologique pour vivre, c'est épatant. J'ai d'ailleurs vu un pasteur comme ça, il était vert, cadavérique, mais bien présent. Et ça m'a vraiment émerveillé en fait, de voir quelqu'un qui était présent à ses proches, de cette façon-là. Il y a aussi des gens qui nous ont expliqué qu'ils hésitaient à appuyer sur un bouton, parce qu'ils avaient l'impression qu'ils étaient dans une fusée, que s'ils appuyaient sur ce bouton, soit peut-être ça explosait, soit peut-être ça démarrait, et que ça allait vers un ailleurs qui était peut-être merveilleux. Alors moi, j'étais quand même scotché d'entendre ça parce que j'étais pas très sûr en fait qu'existe cette perception que quelque chose pouvait être de la décision de la part du patient. J'ai constaté aussi des patients qui, lorsqu'on leur avait dit que finalement, alors qu'ils avaient attendu des semaines et des semaines, parfois même des mois, ben que ce qu'ils attendaient, ils ne l'auraient pas parce que la médecine arrivait au bout de ses limites et le lendemain, ils étaient morts, comme si c'était ça qui les faisait tenir en vie. On voit de façon classique des gens qui attendent une personne qui habite loin qui vient les rencontrer. C'est pas toujours le cas, hein. Des fois c'est pas possible, enfin, quelquefois il y a une relation qui semble assez évidente, ou tout du moins c'est comme ça qu'on l'interprète, et on est bien content de l'interpréter comme ça, parce que ça nous fait espérer. Et puis, il y a un patient un jour qui nous a dit, il était agité, il était dans sa phase pré-agonique, donc agitation, on se dit qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il a des douleurs? Alors bon, on fait une titration en morphine pour voir si ça soulage, c'est-à-dire qu'on fait des petites doses progressives, on regarde est-ce qu'elle est soulagée, on croit qu'elle est soulagée. Et puis il s'arrête, il dit mais est-ce que c'est fini? Alors bon, puis c'est quand même comme ça, puis ça reprend en fait avec agitation, on dit maintenant c'est peut-être pas ça, il est peut-être angoissé, on essaie de lui poser des questions, il répond pas, on dit mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi il est agité comme ça? Bon, alors là c'est toujours des moments où on tâtonne en fait, hein. On essaie de voir est-ce qu'il faut des traitements, est-ce qu'il n'en faut pas, qu'est-ce que vit vraiment le patient. Quand il est présent, c'est là qu'on l'interroge. Et une deuxième fois, il dit « Est-ce que c'est fini ?» Et puis on se dit « Mais qu'est-ce qui est fini? De quoi il parle ?» Et puis la troisième fois, il repose la question, et là, les soignants ont la présence d'esprit de dire bah, « Écoutez, vous savez, on est là. Vous savez, on est là. Vous pouvez partir si vous le souhaitez, mais on est là, on est avec vous. » Et là, le patient, il est parti. Il est décédé. Donc on se dit, mais il y a quand même quelque chose qui se passe peut-être dans la relation. Et aussi, cette patiente, en fait, avec qui ça se passait plutôt bien, en fait, quand je la rencontrais, pas de douleur, paisible la plupart du temps. Et il y avait un moment où elle était vraiment agitée, c'est quand son fils débarquait. Alors elle avait eu la relation avec son fils était extrêmement troublée, il était parti, il avait certainement fait des frasques. Et donc s'il avait renoué depuis peu de temps avec cette maman qui était malade et qui finissait ses jours, et chaque fois qu'il venait, dans les derniers jours qui ont précédé les dernières heures qui ont précédé sa mort, elle était agitée, mais agitée comme pas possible. Et quand son mari venait, elle était mais détendue, on voyait qu'elle était vraiment apaisée. Bah, résultat des courses, en fait, j'ai le témoignage du mari qui m'a dit merci, merci vraiment pour vos soins parce que ça a été formidable. Bon, témoignage du fils après, franchement, ça a été odieux. Vous avez fait un travail vraiment complètement nul. Donc vous voyez que là, enfin nous on n'a pas fait grand chose, hein, on a essayé de suivre au plus près ce qui se passait pour la patiente. Des fois c'est même se retirer dans les soins parce qu'il n'y en a plus besoin, faire le minimum, garder les traitements qui semblent indispensables. Mais on se retrouve là en fait avec des personnes qui sont dans des relations tendues, compliquées, et ça peut faire apparemment mal en fait. Enfin, ou créer une souffrance, quoi. Et enfin, il y a ce monsieur qui, pour moi, est vraiment nous donne une expérience fantastique. Tout son parcours, ça a été, alors qu'il avait mais vraiment des trucs épouvantables, il y avait des douleurs, il y avait des tumeurs partout, il avait des tumeurs cérébrales, il avait voulu aller en radiothérapie, puis c'était très pénible pour lui. Il avait de l'eau autour du cœur, ça l'étouffait. Et donc à chaque fois on lui proposait en fait quelque chose, alors des fois qui marchait, puis d'autres fois qui marchait pas, et puis il disait, bah écoutez, je suis content parce que ça c'était fait. À chaque fois il était très content parce que ça avait été fait, ça avait marché, ça avait pas marché, il était content. Et puis un jour il me dit, mais où est-ce que j'en suis, est-ce que je pourrais voir Noël? Et là bah, je dis, écoutez, il y a ça, ça et ça. Vous savez, c'est quand même compliqué. Pourquoi vous me posez cette question? Il dit, ah, j'aimerais quand même bien me marier. Et ce patient, chaque fois qu'il y avait des soignants qui rentraient dans la chambre, y compris jusqu'au dernier jour, il se levait, et puis il se levait de son lit, là, comme ça, tant qu'il pouvait, et puis il accueillait la personne, il avait donné des petits surnoms sympathiques qui traduisaient bien en fait les fonctions de chacun. Et il saluait les soignants de cette manière-là. Et donc les gens étaient contents en fait de le rencontrer. Il s'est marié, il a choisi le jour de son mariage, et il est mort le lendemain. Il avait un enfant de 8 ans, il connaissait sa compagne depuis longtemps, il avait vraiment envie d'accomplir en fait ce temps en fait, enfin, de cette et puis cette, que ça, voilà, d'épouser sa femme. Eh bien, le témoignage de service, pourtant cet homme était jeune, il avait un peu plus de 40 ans, le témoignage du service était, bah, c'est bizarre, normalement on est triste quand c'est des gens comme ça, et là on n'est pas triste. Alors, je me suis dit, il s'est passé quelque chose, je ne sais pas si cet homme avait la foi, mais je pense en fait que de toute façon, le Dieu auquel je crois, c'est le Dieu vivant, et donc il parle à chaque homme. Après, voilà, il y a les différentes confessions, mais il travaille en fait avec chacun. Voilà ce que je peux dire des rencontres avec les différentes personnes. Alors, l'organisation des soins palliatifs, depuis le nouvel hôpital, nous avons gagné 2 lits pour l'unité de soins palliatifs, donc nous sommes passés de 10 à 12, ce qui fait quand même 20% d'augmentation du travail. On a dit au directeur, c'est bien joli, mais aller quasi 20% en plus dans une journée, alors ça se voit pas comme ça, mais en fait on sort tard. bon, on essaie de résoudre cette question, mais on essaie de travailler surtout avec la même qualité, parce que on va pas abandonner de la qualité. C'est un des services où on travaille sur, on a peu de patients, mais c'est justement pour faire de la qualité de travail. Et bien même comme ça, on a un mal fou à recruter les patients les plus compliqués de l'hôpital. Pour différentes raisons, il y a des services où on les garde précieusement, et où ça rame, et on n'a pas encore compris que ce serait franchement mieux de travailler avec nous pour nous les adresser. Donc des fois, pour qu'on n'accueille pas dans notre service des gens qui n'ont vraiment rien à y faire, c'est-à-dire tout autre problème de médecine, où d'ailleurs les gens prendraient peur, parce qu'ils diraient « mais pourquoi on m'a fichu en soins palliatifs ?» Alors on est obligé de les rassurer en disant « non, vous n'allez pas mourir, non, vous venez juste pour une sciatique, vous inquiétez pas, vous rentrez chez vous quand vous aurez moins mal, ça c'est garanti. » Il y a quand même une certaine inquiétude. Après, ils sont rassurés de voir beaucoup de personnel pour s'occuper d'eux. Ils disent oh, « c'est génial, j'appuie sur le bouton, ils sont là en 5 minutes, alors que dans tous les autres services, ça met des fois une heure. » Voilà, donc ça, c'est un peu la réalité crue de l'hôpital. Je pense que les choses vont s'améliorer. Il y a beaucoup de choses qui bougent. On travaille de plus en plus avec les différents services, les différents confrères qui commencent à comprendre un petit peu mieux comment ça marche. Il y a un deuxième niveau qui est le lit identifié de soins palliatifs. Le lit identifié de soins palliatifs, c'est en dehors de l'unité de soins palliatifs, dans des services où apparemment on risque de retrouver des gens qui ont besoin de soins palliatifs, et c'est une valorisation du séjour hospitalier en disant voilà, si vous avez un patient qui répond à tel critère, vous le cotez en Z51.5 et ça vous rapportera de l'argent. Donc ça veut dire, quand on fait son courrier, on dit « voilà, c'est un patient que j'ai accueilli et qui était en situation palliative de telle maladie ». Alors là, c'est les mots-clés qui rapportent des étas pour que ce service ait un peu plus d'argent. Malheureusement, il n'y a pas forcément plus de soignants dans ces services. Et ça, c'est une honte, parce que on détourne l'argent qui est réservé à ces patients. Et donc à ces services, vous devrez y avoir un petit peu plus de soignants, parce que franchement, c'est hyper dur de travailler quand vous avez X toilettes, X soins à faire, X perfusions, et qu'en plus, il y a des gens qui méritent un petit peu d'attention. Donc ça, je ne sais pas comment on va empoigner le truc, mais il y a un moment donné, il va falloir qu'on parle clairement de cette affaire. C'est des situations délicates. La gestion d'un hôpital est extrêmement compliquée. C'est des flux d'argent, des flux de personnes, il y a des personnes qui manquent, etc. Ça, c'est dans tous les hôpitaux. Il nous manque 19 000 praticiens hospitaliers en France, ce qui est un certain nombre de villes sans médecins, hein, si on regroupait tous les trous qui manquent. Donc voilà, ça c'est un peu compliqué. Du coup, les lits identifiés de soins palliatifs, pour l'instant, la Sécu, enfin, elle fait attention, mais elle peut être très sévère. On peut perdre des choses comme 500 000 euros facile, hein, avec ces histoires-là. Et il y a des comptes qui sont vérifiés, et la Sécu, là, c'est elle qui paye, elle n'est pas tendre. Hein. Quand elle s'aperçoit qu'elle s'est fait rouler dans la farine, ça se passe mal. Alors, en général, bon, l'hôpital n'aime pas trop perdre de l'argent, donc voilà. Le troisième niveau, donc pour répondre aussi à la répartition des soins palliatifs, normalement, les soins palliatifs, il y en a partout. Quand je suis arrivé ici, je me suis dit, waouh, génial, on a un territoire qui est assez regroupé, et qui fait 350 000 habitants, avec les alentours, enfin tous les gens qui viennent vers notre hôpital. Donc potentiellement, en fait, ça fait quand même pas mal de boulot avec tous les généralistes, avec tous les établissements pour personnes âgées, etc. Donc nous nous déplaçons dans les EHPAD, pour les établissements pour personnes âgées. Parfois, nous nous déplaçons à domicile, mais attention, nous n'allons pas à domicile pour faire le travail du médecin généraliste. Parce qu'autrement, alors là, on n'en finirait pas, parce qu'il manque des médecins partout. En revanche, on y va pour les situations complexes où il y a besoin de se réunir, que le patient ne peut pas se déplacer et que c'est utile, en fait, d'être à la maison. Par ailleurs, je ne fais pas de consultation moi-même. C'est pour ça aussi que c'est peut-être parfois difficile de m'avoir, parce qu'on téléphone à mon secrétariat, on me dit « on aimerait bien rencontrer le docteur Biderman », mais je ne peux pas faire de consultation parce que je suis déjà bien occupé dans mon propre service et que c'est organisé autrement. Nous sommes partagés en deux équipes, mais c'est le même service, soins palliatifs. Il y a une équipe intra-hospitalière qui est avec des lits, c'est comme les autres services, et puis une équipe qui est dite mobile, qui va se déplacer dans tous les services et qui fait travailler aussi en relation avec le domicile et les établissements pour personnes âgées et les établissements pour personnes handicapées, enfin tout lieu où il peut y avoir des patients en difficulté. Et c'est eux qui organisent les consultations. Ces consultations se font même souvent en binôme avec un médecin et une infirmière ou un médecin et un psychologue. Un psychologue. Parce qu'on a l'habitude en fait d'écouter à plusieurs et d'essayer de comprendre ce qui se passe, quels sont les enjeux, parce que la réponse qu'on vient chercher n'est pas forcément une réponse médicale, elle peut être beaucoup plus complexe que ça. Est-ce qu'on peut être médecin en soins palliatifs sans être chrétien et comment ça se passe? Alors oui, c'est même assez fréquent, même s'il y a beaucoup de médecins qui sont chrétiens. Je pense qu'il y a peut-être la moitié en fait qui est chrétien et l'autre qui n'est pas chrétien, en fait, je pense. C'est plutôt très riche parce que de toute façon, il y a beaucoup de gens qui cherchent du sens en venant en soins palliatifs. Malheureusement, on a aussi, et ça j'ai été surpris de l'apprendre, on a aussi des gens qui cherchent d'autres intérêts que ceux du patient. La gloriole, à résoudre des problèmes, à fuir un travail qui était pénible avant, il y a des tas de raisons. Et en général, ça se passe très très mal, parce que c'est des lieux où la rudesse de ce qui se passe ne fait pas de cadeau. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas attention à ces personnes-là, parce qu'on les sent fragiles, mais c'est épuisant. Des fois, c'est comme si on avait un 13e patient dans un service de 12, mais ce 13e patient nous occupe en plus 25% du temps. J'exagère, mais parce que ça désorganise tout, c'est compliqué. Du coup, on essaie d'être prudent aussi dans nos recrutements pour voir s'il y a pas de, enfin, si ça ne va pas trop poser de problème. Et puis, par rapport à la question de l'acharnement, les choses qui peuvent paraître disproportionnées dans les traitements, alors l'acharnement, c'est la loi est claire là-dessus. L'acharnement thérapeutique est interdit. Sauf que en disant ça, c'est très drôle parce que on ne sait pas. Enfin, la loi ne définit pas qu'est-ce qui est d'acharnement. Donc il y a deux points de vue là-dedans. Il y a le point de vue du médecin qui veut dire non, ça c'est de l'acharnement pour moi, même si le patient dit ben si, il faut continuer. On a eu le cas dans notre service. Et il y a l'autre cas où le patient dit, lui, non, n'allez pas plus loin, ça pour moi c'est de l'acharnement, alors que le médecin aimerait bien aller plus loin, pour différentes raisons. Alors globalement, quand c'est le patient qui le dit, normalement, ça devrait s'arrêter là. C'est-à-dire que nous, on travaille très fortement pour dire, écoutez, arrêtez vos bêtises, parce qu'il vous le dit, il vous le rabâche, on va finir par lui dire, voilà, n'allez plus là-bas, ne prenez plus l'ambulance, mais enfin, pourquoi vous y allez encore, en fait si... Alors, il y a des fois, les gens n'osent pas dire, parce qu'ils disent, ah, c'est quand même eux qui savent. Ils disent, non, c'est vous qui subissez tout ça, dites-leur que ça suffit. Parce que des fois, en fait, tous ces trucs-là, c'est franchement pénible pour les gens, et il n'y a pas à critiquer ça. Nous, on a juste un travail, quand on estime que, franchement, ça serait intéressant que le patient loupe une chance, on a juste un travail d'essayer de lui apporter suffisamment d'éléments pour que, en conscience, il prenne la bonne décision. Mais s'il veut pas, il veut pas, et on ne le forcera pas, et à un moment donné, il faut arrêter d'insister. Globalement, quand même, une partie du temps, enfin, je dis pas que c'est encore la règle, mais ça se déploie de plus en plus. Alors, pas forcément du côté de l'oncologie, on a toujours un petit traitement de la recherche, machin, on bricole, machin, et ça n'en finit pas. Il y a des fois, c'est les patients qui disent, vous ne croyez pas que ça suffit, là, cette affaire, écoutez, je reviendrai pas la prochaine fois, parce que si vous continuez comme ça, vous n'avez pas compris que c'est fini. Mais alors, situation beaucoup plus embêtante, alors là, ceux-là, on essaie de les faire passer par chez nous, parce qu'il y a des gens qui veulent absolument être réanimés, alors que c'est une contre-indication majeure. Donc là, on va les accompagner. Et on va avoir tout un dialogue avec eux pour dire ben, ça pourra pas se passer comme ça parce que ça serait catastrophique. On va pas vous remettre des tuyaux pour vous mettre dans une situation que vous avez déjà vécue qui est extrêmement pénible et dont vous n'allez pas vous tirer comme ça. Et finalement, dès les urgences, de pouvoir passer dans notre service pour ces questions-là, alors en général, enfin quand c'est préparé, parce que des fois c'est des mois de préparation pour que les gens comprennent en fait qu'il faut un accompagnement et que et puis on va même travailler avec la réanimation, avec la néphrologie, le service de dialyse, etc. Enfin d'autres services pour dire bon jusqu'où va-t-on, qu'est-ce qu'on peut encore faire, qu'est-ce qu'on peut encore proposer dans ce qui comprend. Parfois on va lui reproposer des choses intermédiaires mais qui sont pas trop pénibles pour lui pour qu'il fasse son petit chemin. Et qu'à un moment donné, ce soit prêt. Mais c'est aussi tout un chemin. Et donc ça, c'est très intéressant. Et puis enfin, il y a les familles qui insistent lourdement. Alors il y a des fois, c'est pour liquider le patient, enfin qu'ils voudraient qu'on le tue, alors que le patient n'a jamais rien demandé. Alors ça, c'est ça, ils entendent parler du pays. Enfin, on le fait avec délicatesse parce qu'il faut quand même. Derrière, il y a des souffrances. Mais il y a quand même des gens qui sont particulièrement insistants. Et on va quand même leur dire, écoutez, là, l'enjeu, c'est pas ça. L'enjeu, c'est ce qu'il vit, lui. Et on va surtout pas faire ce que vous demandez là, parce que ça, c'est votre propre souffrance. Vous avez le droit de souffrir, vous avez le droit de l'exprimer, mais j'ai surtout le droit, moi, et le devoir de ne surtout pas faire ce que vous me demandez. Pour vous protéger, vous, et pour protéger le patient. Parce que là, c'est de la violence, c'est pas de la médecine. Alors les gens en général sont en colère, trouvent ça insupportable, ne comprennent pas. Mais il y a une partie des gens qui vont venir le lendemain ou le surlendemain dire « Ah ben j'ai vu ce que vous faisiez, j'ai vu comment mon proche était soulagé, j'ai compris comment travaille votre équipe et je comprends pourquoi vous m'avez dit ça. » Et donc on a des gens qui démarrent leur travail, leur futur travail de deuil. Et ça démarre bien. Et ça, c'est notre travail, en fait, de faire aussi en sorte que le travail de deuil s'enclenche le mieux possible pour les proches. Ce qui est toujours un travail extrêmement délicat, on peut se tromper, voilà, il faut le faire avec beaucoup, beaucoup de délicatesse. Mais aussi de fermeté par moment, en fait, quand ça dépasse les bornes. Et puis donc, il y a aussi d'autres familles qui insistent énormément pour et peuvent même être menaçantes si on ne met pas en œuvre des thérapeutiques que nous ne pourrions pas mettre en œuvre au risque d'aggraver la situation du patient. Ça s'est passé cet été, c'est 2 mois de travail, des négociations, plusieurs procédures collégiales extrêmement lourdes avec plusieurs médecins. Et c'est tout un travail aussi en délicatesse de fond avec les cadres santé, les psychologues, enfin il y a eu plusieurs personnes. Un épuisement du médecin référent qui vraiment s'est dit mais c'est hyper lourd. Tout ça pour aboutir en fait à on a décidé, c'est pour ça que la décision éthique elle aboutit pas forcément toujours à ce que on aurait pu imaginer. Il a été décidé de mettre en œuvre quelque chose qu'on aurait pas fait, c'est-à-dire d'alimenter un patient coûte que coûte, alors que c'était hyper dangereux. On a gagné, tel que nous l'avions annoncé, une infection sévère, qui a nécessité un traitement antibiotique carabiné, d'interrompre l'alimentation de façon brutale, etc., etc. Et une famille qui, elle, était accompagnée parce que elle avait énormément de mal à lâcher prise sur cet élément-là, et quand elle a vu qu'on était vraiment à l'écoute jusque-là, qu'on prenait ce risque jusque-là, je pense en fait qu'à un moment donné, elle s'est sentie respectée dans ses valeurs, dans ses croyances, dans tout un tas de choses, au risque que le patient, nous on essaie de garder quand même le cap, parce que c'est quand même lui le premier concerné, et c'est à lui qu'on doit des soins de qualité et toute la bienveillance. On pense qu'il n'a pas trop souffert dans l'histoire, mais c'est une des réalités aussi sociologiques, c'est l'accompagnement des familles qui est parfois de plus en plus difficile en raison de ces exigences-là, en fait. Voilà ce que je peux dire sur les questions d'acharnement et d'actes disproportionnés. La durée de séjour, elle peut être extrêmement courte, ça peut être de quelques heures. Alors en général, c'est pas trop fait pour ça, parce que si c'est juste quelques heures, à moins qu'il y ait des symptômes extrêmement sévères, souvent on nous envoie des gens beaucoup trop tard et qui n'ont pas besoin de soins palliatifs, parce qu'ils sont déjà dans des phases pré-agoniques, voire agoniques. Et quand les gens sont dans le coma, en fait, il n'y a plus rien à faire, il n'y a pas besoin d'une équipe avec beaucoup de personnel. Et suivi surtout d'un lit, d'un petit peu d'attention, de faire continuer les soins de nursing. Et ça peut aller à plusieurs mois. Quand je dis plusieurs mois, c'est des fois d'un point de vue économique, c'est catastrophique. Je dis ça de façon générale pour nos politiques et pour notre directeur ne dit rien d'ailleurs par rapport à ça. Il ne dit absolument rien. On lui a déjà présenté l'affaire. On a dit mais qu'est-ce que vous pensez de ces patients qui restent chez nous des siècles Rien, aucune réponse. Alors pour quelqu'un qui est un financier, on a été franchement rassurés. Il n'est pas que financier, c'est aussi un très bon organisateur. Il y a des défis qui sont immenses. Ce que vous entendez dans la presse, n'en croyez pas la moitié. Il y a des choses, effectivement, il y a des choses qui sont sévères, qui se passent sur l'établissement, mais croyez-moi que l'accueil de 15 patients qui sont sur des brancards et qui attendent d'avoir des places, c'est une logistique qui est extrêmement difficile. On essaie de trouver des solutions. On a un hôpital qui est un peu trop petit, on n'a pas tout à fait assez de médecins, on a augmenté le nombre de lits en médecine, on n'arrive encore pas actuellement tous les jours à accueillir tous les patients, donc certains vont dormir aux urgences sur des brancards. C'est dramatique, mais voilà, c'est une des réalités actuellement. Donc notre directeur met vraiment tous ses efforts pour accueillir, parce que c'est sa fonction première, accueillir les patients. Pour les gens qui ont des durées de séjour très, très longues, ça peut être en fait des gens qui ont des tumeurs cérébrales d'évolution lente. Il y a peu de besoins, mais il n'y a aucun établissement qui les accueille parce qu'ils sont trop jeunes, il y a trop de soins, c'est pas assez ceci, c'est trop cela, nanani, nanana. Enfin bref, ça n'a pas été prévu. C'est un manque politique majeur. Ça ne serait pas très compliqué de faire des unités où on dit bah, effectivement, il y a des gens qui sont nuls par ailleurs, on les dénombre, on dit bah, voilà, il y en a tant, et donc après on crée une unité. C'est pas fait. C'est une aberration. Bon. Donc, ils vont dans le service le plus cher parce que personne n'en veut. Les autres services sont très occupés à s'occuper des autres patients. Et donc, ben, quand ils débarquent chez nous, on les a. Quand les autres services les ont, ils les ont. Et pendant un temps qui est très long. Pour ce qui est la durée moyenne de séjour, c'est environ de 18 jours, mais avec ses grands extrêmes. Je crois qu'on est au-dessus de la moyenne nationale. Pour différentes raisons, c'est que on a tendance à pas mettre les gens à la porte. Il y a une période où on a essayé de trouver des solutions coûte que coûte, de mettre coûte que coûte les gens à la maison. Les aidants principaux étaient épuisés. Cette période-là, j'essaie qu'elle soit terminée parce que alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des couacs, etc. Mais il faut voir que un des problèmes majeurs de la situation palliative des gens, c'est de ne plus pouvoir rester à la maison. Et les soins palliatifs à la maison, c'est une très grande aventure, déjà pour le patient, et peut-être encore plus grande pour les aidants, qui sont, comme il disait, ah ben, l'hospitalisation à domicile, c'est bien, c'est 2 heures par jour, et c'est moi, 22 heures par jour. Je ne dors plus. Donc nous organisons aussi des séjours de répit où il n'y a pas forcément beaucoup de soins à faire, mais où on accueille certains patients lourds pour le domicile, pour soulager un petit peu les aidants. Alors ce qui est difficile, c'est que parfois on sait que les gens ne retourneront pas à domicile tellement on a lessivé les aidants. Voilà pour les durées de séjour. Alors après, si on nous fait des remarques sur ces durées moyennes, il faut que derrière, il y ait des autres structures qui n'existent pas. Il faut qu'il y ait des soins de suite, il faut qu'il y ait des établissements spécialisés, qu'il y ait plus de places par-ci, par-là. Enfin, ça n'existe pas. Et il y a une chose qu'on ne fera pas, on ne va pas abréger le séjour des gens pour avoir de la place. Ça, c'est pas... Mais même en faisant comme ça, c'est-à-dire en accueillant... on est encore en train de chercher les patients les plus lourds, donc je dirais avis à la population médicale, il y a des gens qui sont franchement compliqués, et ben ils arrivent encore pas chez nous, en fait, bon, alors qu'on a augmenté le nombre de lits. Concernant l'hydratation, nous poursuivons l'hydratation pour notre part jusqu'au bout. Alors ça c'est quelque chose qui a évolué parce que la loi dit ben voilà c'est un soin. Non, elle dit pas, elle dit plus que ça. En fait, elle dit c'est un traitement parce que selon une définition qui est assez simple, c'est-à-dire que le médecin est obligé d'écrire qu'il faut mettre en place une hydratation quand elle est artificielle. Autant quand vous donnez à boire un patient, la famille donne à boire, voilà, il y a des soignants qui peuvent donner à boire, ça fait partie des besoins naturels et essentiels. En revanche, l'hydratation, théoriquement, en fait, on pourrait l'arrêter, parce que c'est une ligne qu'on arrête comme ça. C'est d'ailleurs déjà arrivé dans une situation où on s'était aperçu qu'on avait fait toute une grande procédure collégiale pour la nutrition, et il y avait un petit malin, bien avant la décision d'arrêt de nutrition, parce que c'était catastrophique, qui avait déjà arrêté l'hydratation. Ça nous avait quand même mis en pétard parce que, alors heureusement, l'alimentation artificielle apporte aussi du liquide, donc c'était passé inaperçu, mais enfin, il y a un moment donné, on n'avait pas vu quelqu'un avait triché par rapport à ce qu'on était en train de décider. Alors l'hydratation, on a revu nos copies parce que il y a eu certaines expériences malheureuses où on avait décidé d'arrêter l'hydratation et ça s'est pas très bien passé pour plein de raisons. En fait, d'abord parce que c'est quand même des dernières choses qu'on arrête, si elle doit être arrêtée. Et la patiente en question, elle s'est retrouvée quand même à être à un moment donné un peu plus éveillée. On s'est dit, ben, alors est-ce qu'il faut peut-être la remettre parce que comme elle avait un accident vasculaire cérébral et que par ailleurs elle était encombrée, mais que là elle était moins encombrée, ben, c'est sûr qu'on l'hydratait moins, mais que du coup elle essayait d'exprimer quelque chose. On s'est dit, ben, qu'est-ce qu'on fait? Alors moi j'avais dit, mais il serait peut-être opportun de recommencer l'hydratation. Et là vous êtes dans un piège, parce que comme vous avez aussi vu la famille qui vous a dit, bon maintenant il faut que tout ça s'arrête, personne n'ose remettre l'hydratation, parce que on va se retrouver avec la famille qui dit, mais qu'est-ce que vous faites? On avait prévu qu'elle décéderait, vous nous avez dit que c'était ces derniers jours, le truc pas possible. Et puis, il y a un inconvénient, c'est que ça pue, parce qu'il y a l'urée qui s'accumule. Et c'est pas du tout pareil que dans les autres maladies. Et puis, le visage, en fait, se creuse. Enfin, y a un changement physiologique qui est pas très chouette à voir pour l'entourage. Et qui est pas la même chose que d'accompagner, une famille et de lui expliquer ce qui se passe. Là, vous savez, en fait, que c'est l'hydratation qui est en cause. Alors, par ailleurs, la dame, on avait estimé qu'elle avait une maladie qui était en train de l'emporter, mais quand même, par la suite, on a regardé avec beaucoup de prudence cette décision d'arrêt d'hydratation, parce qu'il a traîné l'idée que c'était peut-être pas très utile, que les patients n'en souffraient pas, etc. Alors, on la garde du coup tant qu'elle ne gêne pas. De toute façon, elle ne va pas prolonger outre mesure la vie de la personne. Parfois, elle va être gênante parce que ça va provoquer un encombrement majeur, c'est-à-dire qu'il y a plein d'eau partout. On est dans des tableaux qui sont débordants, ça coule même par les pores de la peau. Et on peut aller jusqu'à l'œdème aigu pulmonaire qui est là pour le coup extrêmement pénible. C'est-à-dire que le patient meurt par noyade et vous pouvez parfois même pas enlever l'eau que vous avez mise. Donc on évite la noyade, c'est ça qui motive l'arrêt de l'hydratation. Et c'est pratiquement que ça en fait, à présent. C'est un point de vue, je sais qu'il n'est pas forcément partagé par toutes les équipes. C'est le point de vue que nous avons adopté et les soignants, franchement, la nutrition et l'hydratation, c'est vraiment des choses sur lesquelles il ne faut pas toucher. La nutrition, ils comprennent qu'à un moment donné, on ne pourra pas poursuivre parce qu'il y a des questions techniques qui se posent. C'est catastrophique si on met des tuyaux, on aggrave la situation, donc c'est plus indiqué. Ou des fois, c'est franchement pas indiqué, on ne va rien apporter au patient. Que avoir la certitude qu'il aura une infection sur le matériel qu'on lui met. Donc ça, la nutrition, les soignants comprennent bien les enjeux. En revanche, l'hydratation, enfin voilà, c'est la dernière chose qu'on arrête en fait. C'est faux, parce que ça crée des symptômes, et uniquement quand ça crée des symptômes. Enfin, le renouvellement des infirmières. Je pense qu'il est plutôt naturel, c'est pas par épuisement, parce que c'est souvent la question que les gens nous posent, c'est dur dans votre service, on tient pas longtemps. C'est pas la question, il y en a qui sont là depuis le début, qui trouvent d'ailleurs que c'est des conditions de travail qui sont quand même plus faciles que dans les autres services, sauf l'été dernier, où on a augmenté le nombre de patients sans augmenter le nombre de personnel. Là, ça a été vraiment raide. Et on a un renouvellement qui se fait oui, tout doucement, mais là on a déjà renouvelé depuis 2012 environ, je crois, la moitié de l'équipe. Peut-être même un peu plus de la moitié de l'équipe.